En Galates, chapitre 5, on a considéré le fruit de l'esprit. Et maintenant, nous nous trouvons à la fin, au verset 25-26, qui vont ensemble, malgré la division dans ma version de la Bible. Là, Paul écrit « Si nous vivons par l'esprit », ou peut-être c'est mieux d'écrire « Puisque nous vivons par l'esprit », « Marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » C'est notre sujet pour aujourd'hui, et le titre de la prédication, c'est « Vivons au rythme de l'esprit ». Et parfois, nous pensons, c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est un peu difficile de définir, et je pense que Paul, en fait, il nous aide vraiment de savoir ce qui est marcher selon l'esprit dans ce passage. Ce qu'on va dire, d'abord, les points. Premier point, deux réalités de la vie chrétienne. Deuxième point, le rôle suprême de l'esprit dans la vie chrétienne. Troisième point, une vie soumise à la direction de l'esprit. Ce sont les trois points. On va les voir au fur et à mesure, tout au long de notre temps de considération maintenant. Ensuite, quand je dis deux réalités de la vie chrétienne, je veux juste noter qu'au verset 24, Paul dit quoi? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 25, il commence en disant, puisque nous vivons par l'Esprit. Et ça, c'est un aspect de notre vie qui est réel, qui est actuel. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes un chrétien, une chrétienne en Christ, vous avez déjà crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cette semaine, d'accord? Maintenant, je vais vous poser une question. Cette semaine, est-ce qu'il semblait à vous que votre chair a été crucifiée avec ses passions et ses désirs? Ou est-ce que la chair semble être toujours vivante chez vous? C'est pourquoi je dis, nous vivons entre deux vérités, d'accord? Il y a deux réalités. Oui, nous vivons par et dans l'esprit. Nous avons déjà crucifié la chair, mais il y a, selon le verset 25, l'obligation que le chrétien se discipliner pour mettre en pratique ces vérités. C'est-à-dire, vous vivez par l'esprit, vous vivez dans la sphère de l'esprit, maintenant vivez dans la sphère de l'esprit. Est-ce que vous voyez pourquoi ça c'est important? Nous devenons très découragés quand nous pensons, moi, je suis chrétien, comment je peux avoir telles attitudes? Comment telles pensées peuvent-elles venir dans ma tête? Comment je peux faire une telle et telle chose? Comment je peux être colérique, craintif, anxieux, si je suis en Christ? Et j'ai déjà crucifié la chair avec ses passions et désirs. Si on ne pense pas aux deux réalités en même temps, on aura des problèmes. Si on oublie, d'accord? Si on pense, oui, je suis dans l'esprit, je marche dans l'esprit, je dois marcher dans l'esprit, et on oublie que, en fait, la chair est toujours là, on va avoir des problèmes aussi. Donc, il faut vivre dans les deux réalités. Et ici, Paul répète l'idée qu'on trouve un peu plus tôt en Galates 5. Là, il dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les deux réalités sont là. Et qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? La vérité affirmée, c'est quoi? Nous vivons entre deux vérités qui sont en opposition. Quel est le principe? Nous ne pouvons pas flotter dans la vie chrétienne. Est-ce que vous savez ce que je veux dire par flotter? C'est comme si vous allez à Arcachon, d'accord? Vous prenez votre truc et vous vous lancez dans l'eau et vous allez loin dans l'océan, quoi, dans le bassin, plutôt l'océan. Et d'abord, vous nagez, vous vous propulsez pour aller, mais le moment où vous cessez de faire l'effort, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez flotter. Et c'est quoi qui contrôle la direction? Les vagues, le vent, l'eau, c'est plus vous. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on ne fait pas l'effort, on ne sera pas toujours quelqu'un qui monte dans le Seigneur. En fait, dès qu'on cesse de faire l'effort pour grandir, on commence à baisser, de perdre. En fait, c'est la chair qui produit de plus en plus ses œuvres dans nos vies. On ne peut pas flotter. Ce sont les deux réalités. Il ne faut pas être découragé que la chair est là parce que l'esprit est là, mais on ne peut pas flotter non plus. Deuxième chose à noter ce matin, le rôle suprême de l'esprit dans la vie chrétienne. Paul dit que nous vivons, d'accord, dans la sphère du Saint-Esprit. Ici, c'est traduit par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, moi, je préfère si nous vivons, puisque nous vivons dans l'Esprit. Je pense que ça, c'est plutôt en accord avec ce que Paul écrit en Romains. On est entré dans une nouvelle sphère de vie. Avant, nous vivions dans la chair, la sphère de la chair. Maintenant, nous avons cette sphère de l'esprit. Et c'est l'esprit qui détermine le rythme de notre nouvelle vie. Marcher selon l'esprit, c'est marcher au rythme de l'esprit, marcher pas à pas avec l'esprit, ou marcher à la cadence de l'esprit. C'est un verbe qui parle de l'armée. D'accord? Et vous avez les rangs de l'armée. Et chaque personne prend son pas avec les autres et il suit la direction de leur chef. On n'a pas 99 soldats qui marchent ensemble et le centième qui danse comme il veut. Ils marchent tous ensemble. Ça, c'est l'image ici. Pour être juste franc, nous ne pouvons pas décider comment nous voulons vivre. C'est le Saint-Esprit qui décide. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui détermine. Et donc, c'est lui qui a ce rôle suprême dans notre vie. Et ça va à l'encontre de ce que nous voulons dans la chair. Parce que nous voulons décider comment vivre, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu naturel. Non, je préfère faire ça. Mais c'est le Saint-Esprit pour un chrétien qui décide. Bon, au verset 26, Paul décrit ce qui est marcher au rythme du Saint-Esprit d'une manière négative. Ne cherchons pas une vaingloire. Ça, c'est le lien entre le verset 25 et 26. Si vous vous êtes posé la question, marcher selon l'Esprit, ça veut dire quoi? C'est trop bon, c'est pas concret. En fait, Paul dit oui, c'est concret. Ne cherchons pas une vaine gloire. Si vous voulez savoir ce qui est marcher selon l'esprit, il ne faut pas chercher la vaine gloire. Mais cela veut dire quoi? D'accord? vainglorie, on peut dire que vainglorie est quelque chose à l'intérieur de nous, et donc le semeur traduit « ne soyons pas vaniteux ». D'accord, ça c'est une façon d'interpréter ce verset. Chercher le vainglorie, en fait, c'est d'être arrogant. D'accord, on peut dire ça, vaniteux. Ou, vainglorie est quelque chose à l'extérieur de nous, donc ne cherchons pas une vainglorie comme la traduction que j'ai dit. Et nous avons besoin de considérer ça. Quelle est la meilleure façon de comprendre ce que Paul veut dire ici? Le grec implique que Paul veut parler d'une attitude à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, Paul dit, ne soyons pas ou ne devenons pas. Ça, c'est ce qu'il dit. Il parle de quelque chose qui est à l'intérieur. Pas quelque chose qui est trop de l'extérieur. Mais, j'écris tout cela en réfléchissant, je ne suis pas trop à l'aise avec la traduction « vaniteux » parce que nous avons des idées préconçues de l'expression de cette attitude. Qu'est-ce que ça se manifeste comment? Plein d'admiration pour soi-même, arrogant, hautain. Et le problème, si on dit, d'accord, être vaniteux, c'est quelqu'un avec le nez élevé, qui se vend toujours devant tout le monde pour dire « je suis très bien, je suis très bien ». Tout de suite, tout le monde ici dit « on ne sait pas moi ». N'est-ce pas? Bon. Mais en fait, ça, ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire ici. Être quelqu'un qui est vainglorieux, d'accord, qui est, pas cherche, mais qui est vainglorieux, c'est d'être une personne qui est contrôlée par l'ambition de tirer sa gloire de l'homme. Cette gloire est vide et sans contenu. C'est pourquoi c'est vain, la vaine gloire. C'est quelqu'un qui est contrôlé pour le désir d'avoir la gloire. Mais on peut avoir l'air d'être très humble et être une personne comme ça. On peut être très doux, très gentil, parce qu'on veut être reconnu comme quelqu'un qui est très doux et très gentil, très humble. D'accord? On a ici quelque chose qui pourrait être un piège pour nous tous. Je cite Jésus ici, il dit, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » D'accord? Ça, c'est l'idée dans l'ambition ici, vainglorieux. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Je peux imaginer un groupe de personnes ici très religieuses, très humbles, qui font beaucoup de bonnes choses. Et chacun semble être très humble, mais ils sont tous là, disant tout le temps, « Ah, mais toi, t'es chouette. Oh non, non, c'est pas moi qui est chouette, c'est toi. Tu fais telle et telle chose, tu es très gentil, tu es très humble. » Et nous créons cette atmosphère de vaine gloire. Attention. Donc, être vainglorieux, c'est de mettre soi au centre pour avoir la gloire qu'on convoite. La question pour nous ce matin, c'est quoi? Est-ce que je désire vraiment la gloire de Jésus-Christ ou je désire ma propre gloire? Donc, quelles sont les indications? D'accord, Paul dit, le vainglorie se manifeste en... au moins dans ces deux façons, la provocation et l'envie. Réfléchissons. Nos vies sont-elles remplies de provocation et d'envie? Et le plus proche que vous vivez avec les autres, le plus de provocation que vous avez. Si nous pouvons vivre seuls, on a beaucoup moins de provocations. Mais c'est ça où Dieu nous aide pour révéler la gloire, la vaine gloire qui est en nous. On va parler de la provocation plus tôt, d'accord? La provocation, le verbe était utilisé dans le grec pour décrire quelqu'un qui provoque en duel, d'accord? Dit négativement, marcher en rythme avec l'esprit signifie qu'on ne provoque pas les autres. Dit positivement, on se comporte pour maintenir l'unité. D'accord? Si nous voulons savoir, est-ce que je suis en train de marcher selon l'esprit? Réfléchissons pour voir, est-ce que je provoque les autres? Si je suis en train de provoquer les autres, je ne suis pas en train de marcher selon l'esprit. Par exemple, d'accord, j'ai essayé de réfléchir. Un parent ou des parents provoquent un enfant en exigeant une attitude particulière ou un comportement spécifique pour obtenir la gloire qu'il convoite. Par exemple, l'obéissance parce que je le mérite, parce que je suis votre père, je suis votre mère. D'accord? Un père doit dire l'obéissance, c'est obligatoire parce que Dieu le dit. Mais quelle est l'attitude? Comment on le fait? Est-ce qu'on provoque l'enfant en mettant l'accent sur moi? Je le mérite. Parce que je suis le père. Je fais. Ou la mère, elle peut le dire aussi. Si je cherche ma propre gloire, je vais provoquer mon enfant. Et je ne marche pas selon l'esprit. Il faut le respect parce que je crains ce que les autres pensent de moi comme parent. Quand je cherche mon enfant à l'école, ou je suis au marché avec l'enfant, l'enfant fait un caprice. Arrête! Est-ce que c'est parce que j'aime l'enfant ou c'est parce que j'ai vu quelqu'un que je connais? Je ne veux pas qu'il pense que je suis un papa comme ça qui permet que mon enfant fait n'importe quoi. Il faut que tu m'aides à la maison parce que je fais beaucoup pour toi. Je travaille toute la journée. Il y a de la vérité là. Les enfants doivent aider leurs parents parce que leurs parents font beaucoup de choses pour eux. Il faut apprendre comment contribuer. Mais est-ce que l'accent est sur moi, Michael, ma gloire? Est-ce que je provoque par cette attitude? Ah, mais les enfants, vous pouvez le faire aussi, n'est-ce pas? Est-ce que les enfants provoquent leurs parents parce qu'ils cherchent leur propre gloire? Par exemple, en refusant de se soumettre parce qu'ils veulent être reconnus comme le chef de sa vie. Non, c'est moi qui ai le chef. Et je fais ce que je veux. Non, je ne vais pas te respecter parce que maintenant je suis grand, je peux faire comme je veux. Ah, c'est la gloire qui provoque. Et ce n'est pas l'esprit. Vous ne marchez pas selon l'esprit. En résistant aux règles de la famille parce qu'ils convoitent à l'approbation de ses copains. Si vous faites partie d'une famille chrétienne qui ne permet pas que vous faites n'importe quoi comme tous les autres copains et copines à l'école, ça devient un peu difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être différent. Et les enfants n'aiment pas trop être différents. Et vous résistez, vous faites ce que vous voulez parce que vous préférez d'avoir la gloire qui vient de tous les copains, toutes les copines, que d'avoir la gloire qui vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ça provoque. Et ça, c'est la révélation gracieuse de Dieu dans nos vies pour dire, vous ne marchez pas selon le Saint-Esprit. Un mari provoque sa femme en cherchant sa propre gloire, en insistant sur le respect défini comme la soumission totale sans discussion. Je suis le papa, je suis le mari, j'ai fait, je dis, c'est fait. En refusant de confesser ses péchés ou d'admettre ses erreurs, l'orgueil. en prétendant qu'il n'a rien d'apprendre d'elle. Ah non, non, je suis l'homme, je vais t'apprendre tout ce qu'il faut, mais tu n'as rien à ajouter à ma vie. En protégeant son dignité par la distance. Ah d'accord, tu agis comme ça? La distance. La distance, non, non. C'est provoquant. En poursuivant ses intérêts sans parler à sa femme, malgré le fait qu'ils sont une seule chair. Ce n'est pas marcher selon l'esprit, parce que ça provoque l'autre. Ou la femme provoque son mari en cherchant sa propre gloire, en insistant sur son indépendance. Non, 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 non. Soumission, non, 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 on ne parle pas de ça. En traitant son mari comme il est un enfant. Heureusement, il m'a marié parce qu'il ne peut rien faire sans moi, sans ma direction. Je suis devenu le deuxième maman dans sa vie. En étant distante en raison de ses déceptions, mari et femme seront déçus dans le mariage. Ça, c'est normal, parce que les deux sont des pécheurs. Mais quand la déception arrive et on se protège en mettant la distance, en fait, c'est notre propre gloire qu'on cherche. En étant toujours après le mari pour que son comportement suscite l'approbation de ses amis. Je veux que tu agisses, que tu te comportes d'une manière pour que les autres pensent que j'ai un bon mari. Ou on peut dire pour la femme, pour le mari, j'ai une bonne femme. En exigeant qu'il fasse pour qu'elle soit toujours rassurée. Ma gloire, il faut que tu agisses, que tu te comportes d'une manière qui me fait à l'aise tout le temps. En fait, ce qui est devenu sa gloire, c'est elle-même. D'être rassurée plein temps par toi et pas en Jésus-Christ. Bon, on peut parler tout l'après-midi de ça. Est-ce que nous sommes en train de provoquer les uns les autres? Dans l'Église, on provoque les autres en exerçant nos libertés sans penser aux autres. Ah, je fais comme je veux, tant pis pour toi si c'est un problème. Ah, la gloire, c'est quoi? À moi. En obligeant les autres de vivre selon nos convictions, en insistant que tout le monde adopte notre interprétation ou position. En traitant les autres comme ils sont inférieurs à nous, parce qu'ils pensent ça, ils font ça, ah, nous sommes mieux. En mettant nos besoins au centre de la vie de l'Église. Bon, est-ce que nous sommes un peuple qui provoque? Et l'envie, on va parler de l'envie parce qu'on sait bien ce qu'est l'envie. Je cite que ici Jean Calvin, il dit « Ambition est la mère de beaucoup de maux. Provocation et envie mutuelle sont filles d'ambition. Car celui qui aspire au souverain degré, il faut nécessairement qu'il porte envie aux autres. De là précède que les hommes viennent à détracter, à se mordre et piquer les uns les autres. » C'est Jean Calvin. Michael, c'est pas vraiment une prédication pour la Sainte Seine. Sauf que l'enseignement, le seul enseignement dans le Nouveau Testament sur la Sainte Seine est donné dans le contexte d'une église où il y avait beaucoup de provocations et beaucoup d'envie. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 11. Et ce matin, quand nous prenons le pain, quand nous prenons le jus, c'est un rappel que nous faisons partie d'un seul corps. Que la vaine gloire doit disparaître par le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre dans l'unité de cette alliance que nous avons devant nous.